trop souvent tendance de nos jours à confondre le christianisme fondé par Jésus, le Fils de Dieu, avec les églises hiérarchisées, riches, dotées d'une énorme puissance politique et financière, et ayant à leur tête un haut dignitaire ecclésiastique, dont les décisions sans appel n'ont d'égal que le faste dont ils s'entourent. Tout ceci étant d'ailleurs valable pour plusieurs organisations culturelles. Ce que l'on a coutume d'appeler les sectes, protestantes ou non, tentent désespérément de faire admettre leur point de vue ou leur doctrine. Elles aussi se réclament du Christ lui-même, et chacune d'entre elles tente à grand renfort de brochures, de tracts ou de réunions massives et spectaculaires de faire croire qu'elles prêchent une vérité qui trouve son unique source dans la Bible. Or, si l'on connaît assez bien les grandes églises, on reste très indécis quant à ce qu'enseignent et comment sont organisées ce que l'on nomme les sectes. Elles ont toutes, et j'insiste sur le mot toutes, plusieurs dénominateurs communs, c'est-à-dire un fondateur humain, une organisation centrale, des équidoctrinaux humains qui se juxtaposent à la Bible, des dirigeants locaux à qui il faut obéir, une utilisation de la Bible influencée par les facteurs qui précèdent, et une devise: nous n'enseignons que ce qui est écrit dans la Bible. Tout cela est parfaitement faux, et les points cités le prouvent amplement. Nous voici amenés à poser une question importante. Le christianisme n'est-il pas, au fond, une utopie, un rêve, une fable énorme? La toute première marque de vérité du christianisme véritable se trouve précisément dans sa perfection suprême en tant que régime religieux. La beauté inaccessible et le charme irrésistible de sa conception, le caractère absolument unique des moyens par lesquels il cherche à mettre ses desseins à exécution sont totalement inconciliables avec la notion même d'une fable. Et si tout de même, et en dépit de toute considération, il était bien une fable, on pourrait dire qu'il s'agit là de la plus grandiose affabulation revêtue d'un langage humain. Rien de tel ne se trouve dans l'ensemble de la littérature du monde. L'apôtre Paul seul arrive à exprimer une petite partie seulement de ce qu'est la révélation de l'Évangile lorsqu'il s'exprime en ces termes. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si l'on comprend un tant soit peu le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il s'agit d'un projet, d'un système destiné à venir au secours d'un monde perdu, car enlisé dans la culpabilité et la puissance du péché. Il cherche à transformer littéralement l'homme en le rendant capable de servir ce qui est juste, pur, clair. L'être qui le suit devient alors, presque malgré lui, disciple de Jésus, enfant de Dieu, ressemblant spirituellement à son être, partageant sa nature. L'homme s'élève ainsi jusqu'à un état de sainteté et de bénédiction atteignant cette immortalité dans laquelle Dieu habite. Ce concept sublime ne s'est jamais développé, ni chez les fabulistes, ni même chez les prêtres les plus astucieux et les politiciens les plus trompeurs. Non, cette idée profonde n'a jamais pris source dans les écrits des meilleurs et des plus brillants penseurs, poètes, prophètes ou philosophes qui aient jamais vécu sur notre globe. Bossuet disait: toute pensée est conception et expression de quelque chose. L'immortalité n'a pu être conçue que par l'Éternel. Les hommes n'écrivent pas de nouvelles, ne composent pas de poèmes et n'imaginent jamais des fictions pour racheter leurs semblables de leur faute ou du péché commis. Ils ne le font pas non plus pour les réconforter ou les soutenir dans la mort et préparer à l'immortalité. Et même ceux qui considèrent le christianisme comme étant une illusion ne vont nécessairement aboutir à la déception de ses adeptes, n'osent s'aventurer à affirmer que l'objet de ces enseignements n'est ni très élevé ni spirituel. Ils préfèrent de loin marcher sur un terrain moins mouvant. Ces gens prétendent en effet que les fondateurs de cette religion ont tout simplement tenté de s'enrichir eux-mêmes en présentant à certains de leurs semblables trop crédules de pure vue de l'esprit comme s'il s'agissait de faits établis. En ce faisant, toujours d'après eux, ils les ont terrorisés, créés en eux des superstitions pour mieux pouvoir s'emparer d'eux, en les rendant aveugles quant aux vérités fondamentales de la vie. XIXe siècle, époque de contradiction biblique par excellence, l'école allemande spéculait beaucoup sur l'origine du christianisme. Ce dernier, croyait-elle, avait été forgé de toutes pièces à Rome sous le règne de l'empereur Trajan, tout au début du second siècle de notre ère. Son but aurait tout simplement été de cristalliser un grand mouvement de libération existant au sein du prolétariat juif afin de secouer le joug de leur maître tyrannique. Le christianisme aurait donc été un mélange de socialisme romain, de philosophie grecque et d'esprit messianique juif. Ceci nous est encore confirmé au XXe siècle par des gens comme le soviétique Lenzmann, qui dans un de ses ouvrages édités à Moscou, affirme d'un ton sans réplique « La chrétienté est apparue à la suite des rapports politiques et sociaux existants sous le régime esclavagiste. Les conditions de vie des Juifs de la diaspora ont joué également un rôle déterminant dans la naissance de la nouvelle religion et les formes de son organisation. » Et le voici en plein délire, le christianisme créé par les Juifs. Lorsque l'on considère les motifs donnés par la Bible elle-même, confirmés par des documents historiques, et ses buts cités il y a quelques instants, il ne fait aucun doute que le christianisme est sans conteste destiné à délivrer l'homme du péché et de la mort. La grandeur même de ses desseins prouve que les enseignements de Jésus-Christ n'ont pu émaner d'une intelligence humaine, mais procèdent du cœur de Dieu, créateur de l'humanité. Il est donc parfaitement logique de soutenir que l'infinie sagesse et l'amour incommensurable de Dieu n'ont nul besoin de fables, d'inventions, de tromperies, de légendes et de fictions diverses pour accomplir ses projets et concrétiser ses résolutions. Par ailleurs, si l'on examine les détails de ce qu'on peut appeler le schéma rédempteur du christianisme, c'est-à-dire les moyens particuliers qu'il propose de suivre pour atteindre son but, il apparaît très vite que rien de tout cela ne relève d'une notion de fable ou de fiction, mais qu'au contraire, on se voit obligé d'y substituer la réalité et la vérité. Il est pratiquement impossible de ne pas admettre que le schéma directeur sur lequel se base le christianisme tout entier peut se résumer ainsi. Premièrement, Dieu, dans son amour infini et par pure grâce a, de toute éternité, eu pour intention d'offrir le salut à l'humanité déchue. Deuxièmement, de manière à y parvenir, l'Éternel envoya dans le monde son propre Fils bien-aimé, la splendeur de sa gloire et l'expression de sa personne. Il devint ainsi la similitude d'une chair pécheresse, destinée à mourir pour les péchés du monde. Jésus les prit sur lui, pour ensuite ressusciter, démontrant ainsi que Dieu avait accepté le sacrifice et pouvait dès lors être non seulement juste, mais servir de justification aux pécheurs et faire remonter en surface la vie et l'immortalité enfouies dans les ténèbres. Et troisièmement, ce sacrifice expiatoire est offert à tous ceux qui veulent se donner à Dieu en suivant les enseignements du crucifié. L'être par trop crédule qui, durant un instant, se laisse séduire par l'idée que tout cela n'est qu'une jolie fable, se rend très rapidement compte qu'aucune imagination humaine n'aurait pu forger ou inventer quelque chose d'aussi divinement sublime, d'aussi désintéressé. L'expérience de la vie elle-même est là pour lui prouver que sa raison, aussi simple soit-elle, ne peut accepter l'idée qu'une telle fable puisse avoir été conçue par un cerveau humain. Tout ceci ne signifie nullement que certains hommes, se croyant illuminés, n'aient pas tenté d'imaginer tel ou tel plan du salut de leur cru. Il en existe dans nombre de sectes qui y croient dur comme fer, mais ces schémas ont une fois de plus des facteurs communs. Ils permettent à l'être humain de se sauver lui-même, c'est-à-dire par ses propres prétendus mérites personnels. Ils portent donc sur une délivrance du péché et de la mort spirituelle qui en découle. Ce salut représente, en règle générale, une libération matérielle portant sur des points relatifs à la pauvreté matérielle, à la guérison corporelle, à l'ignorance physique et à toutes sortes de besoins temporels. Ces fondateurs d'églises, de sectes ou de mouvements religieux généralement quelconques, n'ont jamais, semble-t-il, relevé d'un un salut parvenant jusqu'à eux par la médiation totalement désintéressée d'un autre, et certainement pas de Dieu lui-même à la personne de son Fils. Non, il s'agit toujours d'un salut dû et acquis grâce à leurs efforts. Jamais d'une délivrance par grâce au moyen d'une foi poussant à l'obéissance et par conséquent entièrement gratuite, mais toujours d'un salut par les œuvres et les mérites, qui peut par conséquent être considéré comme une véritable dette. Voilà un salut obtenu soit par des formes extérieures et des rites aussi magiques que mystérieux, soit par l'instruction et la culture. Tel est le cas chez les Rosicruciens, pour qui, disent-ils, la souffrance d'une personne qui part apprend finalement à haïr et à renoncer au vice de ses jours passés sur terre et devient ainsi capable et prêt pour aller au ciel. Les perdus, continuent-ils, sont sauvés par Christ en s'élevant jusqu'au point de spiritualité nécessaire, causant ainsi un changement corporel désiré qui rendra l'influence de la vie spirituelle dans le cœur le plus efficace. Les mêmes grandiloquentes théories, largement critiquables, se retrouvent également dans le spiritisme, la théosophie. Cela revient à dire que l'esprit et le cœur sont dès l'origine ouverts à toutes les forces extérieures. On peut donc leur insuffler n'importe quelle fable. Dans ce cas-là, il est permis de s'attendre à ce que, comme dit la Bible, des doctrines de démons s'y introduisent. Ne nous étonnons donc pas que l'Ancien Testament interdise avec tant de constance l'astrologie, le spiritisme et la nécromancie, par prétendu d'évoquer les morts pour connaître l'avenir. Et c'est là que nous entrons de plein pied dans le domaine de la fable, dans son état le plus pur et le plus ésotérique. Quoi de comparable avec le Nouveau Testament? Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets.
Silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas.